on se lasse pas de retrouver ce générique, hein, Tribune Rugby, c'est la troisième édition déjà, parce que on a déjà atteint la troisième semaine. Beaucoup d'intervenants donc aujourd'hui. On a commencé par Jean-Luc qu'on retrouve, il était avec nous à Poigny la semaine dernière. Salut Jean-Luc.
Oui, bonjour. Bonjour.
On avait une demi-heure la semaine dernière, on trouve une heure cette année. Cette fois-ci, enfin jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin du mondial, quoi.
Il y a de quoi dire de toute façon.
Absolument. Avec nous, quelqu'un qu'on est content de retrouver à ce micro, Michel Chapoulil. Salut Michel.
Bonjour Philippe et bonjour aux auditeurs d'Arrivée.
Voilà, avec nous aussi Didier.
Oui, bonjour.
Bon, il vient de Chevreuse, c'est ça,
oui,
Didier?
Oui, c'est ça, du CAC, Club Athlétique de Chevreuse.
Où on doit vivre.
Section rugby, bien sûr.
Oui, on doit vivre ce mondial avec beaucoup de passion.
Oui, tout le monde suit ça de près.
Et puis, autre consultant qu'on a, il parle tennis, il parle aussi ballon val, c'est Christian Rieux. Salut Christian.
Bonjour à tous. Dernière ligne droite.
Et oh, pas encore.
Les choses commencent à se décanter.
Voilà, très bien.
On commence à y voir clair.
Alors, on va naturellement revenir sur cette semaine de mondial. On parlera aussi des matchs d'aujourd'hui. Et puis, on retrouve, je crois qu'il est prêt depuis donc le Mont-Saint-Michel, notre ami Jean-Michel Bourgard. Jean-Michel, bonjour.
Oui, salut à tous. Salut à tous dans le studio.
Ouais. Comment ça s'est passé hier déjà? Un petit mot.
Observer le Mont-Saint-Michel à 3000 mètres d'altitude, c'est assez fabuleux, quoi. Et surtout qu'on avait un temps complètement dégagé, c'était vraiment très agréable, quoi. Donc, une belle expérience que je souhaite à tous.
Ouais, alors on va le dire, hein. Il a simplement fait un saut en parachute, Jean-Michel, il s'est initié au parachutisme. Bravo Jean-Michel.
Il n'y a pas de grand mérite à ça, puisque j'ai sauté en double, donc c'est pas moi qui pilotais.
Très bien, alors quand même le temps de voir plusieurs matchs, et notamment, j'allais dire, une équipe de France qui est enfin rentrée dans le mondial, après sa victoire donc dimanche dernier, d'abord contre la Namibie, hein, et puis ensuite contre l'Irlande vendredi soir.
Oui, ben j'allais dire contrat rempli. Bon, on va pas revenir sur le match parce que bon, il y a déjà pratiquement 48 heures qu'il a eu lieu. Vous avez tous entendu, vous avez tout lu au sujet de ce match. Et j'aimerais simplement appuyer sur la craie au niveau de l'alignement français, parce que faut pas oublier que l'alignement français était en face du peut-être un des meilleurs alignements au monde, que constitue cette seconde ligne redoutable irlandaise. Donc, en fait, la seule originalité de notre résistance à cet alignement, ça a été la polyvalence de Julien Bonner, qui nous a fait un match époustouflant. Il était devant, il était en premier sauteur, il était en deuxième sauteur, il était en troisième sauteur, et puis il revenait en premier, et puis il revenait en second. C'est un petit peu déboussolé l'alignement irlandais, et c'est ce qui a fait peut-être que la conquête a été vraiment, mais à mon avis, il n'y a pas photo, c'était l'apport de Julien Bonner a été capital. Mais j'aimerais revenir quand même sur une petite chose qui a peut-être sauté aux yeux, quoique c'était tellement flagrant. Vincent Clerc frappe toujours deux fois. Alors, une inspiration géniale, une passe au pied, on est à l'heure de jeu, Michalak dégaine, Claire, le tueur de Croke Park, flingue. 8 minutes plus tard, une autre lumière dans la nuit. Cette fois, c'est Ilsald qui tape au pied. Pour qui? Eh bien, pour Claire. Le Toulousain résiste à 3 Irlandais, se retourne et aplatit dans l'embute. Le match est plié, la France qualifiée, Michalak, Ilsald, Claire. Qui ne saute pas n'est pas Toulousain. Grand absent du match d'ouverture face à l'Argentine, Vincent Clerc a attaqué sa Coupe du Monde chez lui, à Toulouse, devant la Namibie, en inscrivant 3 essais. Chapeau. Il avait gagné sa place pour la grande arène du Stade de France. Hier, il en a inscrit 2 autres. 5 essais pour ses 2 premiers matchs de Coupe du Monde. Qui dit mieux? Il a surtout planté 2 splendides banderilles à ces mêmes Irlandais qu'il avait crucifiés durant le tournoi, rappelez-vous. Pour les petits hommes verts qui ont terrassé le Chabal, grâce au méchant Wallace, c'est clair qui doit être l'extraterrestre aujourd'hui. Vendredi à Saint-Denis, le Toulousain a surtout étalé toute sa classe offensive. Vif, tonique, disponible, puissant, il a sans cesse mis le feu dans la défense irlandaise. Danger permanent dans un match crispant. Je ne suis pas titulaire en raison de ma prestation à Croke Park, dit-il, mais en raison de mes performances actuelles. Il avait expliqué ça toute la semaine en gardant le sourire. Il n'empêche que ces 2 essais face aux Irlandais le font entrer dans la grande histoire du rugby. Croke Park, le Stade de France, l'Irlande, tout ça va désormais lui coller à la peau. D'une certaine manière, il entre dans la légende. Il devient aussi l'indispensable ailier de l'équipe de France. Maintenant, il sera en effet impossible de rayer Clerc de la carte. Dominici et Rougerie étaient les deux ailiers en vue avant le coup d'envoi du Mondial. Les temps changent, car Heymans, lui aussi, a fait son match. Michalak, Heymans, Clerc, Poitrenaud, les Toulousains sont là. Clerc, lui, a déjà un bout de crampon au paradis, là où nous irons tous, si l'on en croit la chanson qui a retenti au coup de sifflet final. Voilà, je crois qu'il fallait donner un petit coup de chapeau à Clerc, parce qu'il a été longuement décrié, souvent décrié, parce que on le trouvait un petit peu personnel, etc. Mais on a vu qu'il a quand même, qu'il devient un outil indispensable. Indispensable. Au départ, c'était Dominici et Mans. On est bien d'accord, Philippe. C'était indiscutable. C'était les deux ailiers qu'il fallait absolument sélectionner. Et bien maintenant, la donne a complètement changé. Et puis, il s'avère que c'est Clerc et Heymans qui tiennent la corde.
Voilà. Oui, c'est l'homme de ce début mondial côté français, indiscutablement, Jean-Michel, avant les autres.
Pas tout seul. Hein. Attention, pas tout seul. Chabal a fait des débuts tonitruants. Bon, bien que Chabal n'ait pas le même. Bon, Chabal, c'est la force. C'est la force intrinsèque, c'est la force Cro-Magnon, qui a peut-être un tout petit peu moins de rugby que les autres, parce que je vous rappelle qu'il a débuté le rugby relativement tard. Hein. Mais il y a Bonner, très belle révélation. Il y a Dussautoir, très belle révélation. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et comme je le disais la semaine dernière, ils sont 30. Hein. Ils sont 30, donc 30 joueurs qui sont polyvalents, qui peuvent s'interchanger. C'est quand même une richesse pour l'entraîneur. Quoi.
Oui, alors Jean-Michel, on en parlait, hein, la France qui écrase la Namibie 87-10, qui bat l'Irlande donc assez facilement, donc 25-3 vendredi. Est-ce que finalement le tournoi, enfin pas le tournoi, le tournoi mondial, oui, c'est oui. Que le monde n'a pas commencé véritablement pour les Français?
Si, le tournoi, enfin le mondial a commencé après enfin.
Ils sont rentrés véritablement dans la compétition, ça y est.
Les Français sont rentrés en compétition contre la Namibie, point. On fait abstraction. Il faut faire abstraction totale du match contre l'Argentine, où là, il s'est passé un phénomène que personne ne peut expliquer. Je crois qu'il n'y a pas un théoricien qui peut expliquer la mauvaise prestation des Français lors du premier match. Personne. On peut faire des hypothèses, on peut supputer, on peut tirer des conclusions. Mais on ne peut pas expliquer, c'est pas possible. Je ne vois pas comment quelqu'un de la famille peut expliquer ça.
Et c'est une équipe qui va monter maintenant en puissance.
Ah, mais on le voit à chaque match. On le voit à chaque rencontre. C'est une équipe qui monte en puissance, qui développe toutes ses qualités et qui, j'espère, va nous amener à l'optimum un petit peu plus tard, quoi.
Alors les Irlandais vont quand même avoir du mal à passer, ça va être dur contre l'Argentine, hein. L'Argentine qui a écrasé donc la Namibie 63-3 hier.
Oui, absolument, mais je pense très sincèrement qu'il va y avoir du sport dans ce match, parce que les Irlandais ne lâcheront rien. Et comme on sait, les Argentins, morpions, accrocheurs et anti-joueurs, à la limite, anti-jeu plutôt, il va se passer quelque chose là. Mais peut-être que la bonne surprise va venir des Irlandais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'il faut qu'ils se reprennent. C'est pas possible que cette équipe en soit réduite où elle en était juste avant le match des Français. Parce que finalement, contre les Français, elle a joué son jeu. Pourquoi elle a un petit peu déjoué? Parce que les Français étaient meilleurs qu'eux. Point.
Oui, mais enfin, on a quand même connu mieux côté irlandais. Hein,
c'est vrai qu'on a connu mieux. Bon, la faillite de O'Gara, par exemple, oui. Dans son jeu au pied, on n'est pas habitué à ça, quoi. Il n'est pas coutumier du fait, le garçon. Hein.
Alors, avant de vous lâcher, parce que va falloir récupérer du saut de parachute, Jean-Michel. Hein,
surtout que la journée d'hier a été riche. Hein. Saut en parachute, char à voile, etc. etc.
Ah, d'accord, ah, bien.
C'était très sportif hier.
Alors, un tour de table. D'abord avec Michel Chapouly, hein, qu'on ne vous présente plus. Michel, ce que vient de dire Jean-Michel?
Je suis d'accord avec lui. Ce qu'il y a, c'est que Non, les ailiers au départ c'était Claire ou Emmans Rougerie et c'était surtout pas Emmans à l'arrière hein, parce que je pense que là il a déjoué un petit peu la porte hein, en le faisant jouer à l'arrière. Sinon, ben oui, ils sont 30 et je pense qu'ils sont 30 à se valoir. Ouais. Hein.
Michel.
Oui. Où je suis pas tout à fait d'accord avec Michel, c'est que il faut faire une parenthèse de la sélection à l'arrière de Emmans parce que je crois, je veux pas défendre la porte à 100%. Hein, c'est pas mon rôle d'une part, et puis en plus, je vois pas pourquoi je me ferais son avocat. Hein, mais je trouve que d'avoir sélectionné plutôt 4 ailiers de métier contre un seul arrière de métier, tout en sachant que Emmans pouvait remplacer Poitrenaud à l'arrière, je trouve que c'est pas idiot. Ceci dit, où la donne est un petit peu inversée, c'est que au départ, c'était on avait donné comme équipe probable Poitrenaud et avec deux ailiers Rougerie et Dominici, et que au fil des deux derniers matchs, on se rend compte que ça bascule vers Claire et Emmans. Hein.
Mmh. Oui, surtout Jean-Michel, que Traille et puis Dominici peuvent jouer ici à l'arrière. Hein.
Exactement. Non, je trouve que c'est assez judicieux. Il a été critiqué parce qu'il n'avait pris qu'un seul arrière de métier, mais finalement, ça s'avère payant, quoi, à la longue. Ça s'avère payant.
Oui, Jean-Michel, petit mot de Michel. À
oui, Jamy, oui. Tu ne penses pas que plutôt que sélectionner pour le premier match l'Argentine, c'est quand même, c'est pas une petite équipe, essayer à l'arrière, Emmans, plutôt contre la Géorgie ou la Namibie que plutôt contre l'Argentine, parce que à l'arrière, Dominici contre l'Argentine, je pense qu'il aurait été quand même... il a déjà joué.
Oui,
et faire déjouer les joueurs comme ça, on l'a fait jouer à la demi de mêlée, à l'aile, à l'arrière. Ça n'arrive pas à déstabiliser un joueur aussi ?
Non, attends, il n'y a pas photo contre les Argentins entre Emmans et Dominici. Je suis d'accord avec toi. Pourquoi il a sélectionné Emmans à l'arrière ? Parce que c'est parce qu'il a une puissance colossale et contre les Argentins, on sait qu'il fallait un arrière qui ne s'échappe pas à la réception des chandelles dont a usé l'Argentine. Donc il fallait quelqu'un de solide, de costaud, même peut-être plus solide et plus costaud que Poitrenaud. Physiquement s'entend, hein, c'est-à-dire avec une masse musculaire plus importante que Poitrenaud, parce que Emmans est quand même plus costaud intrinsèquement que Poitrenaud. Et c'était pas complètement idiot de faire entrer un bestiau plutôt qu'une gazelle à l'arrière contre les Argentins. Il est évident que on a vu Poitrenaud contre les Irlandais faire un match remarquable. Et Emmans n'avait rien à faire à l'arrière contre les Irlandais. On est bien d'accord.
Absolument. Oui, Michel, tu voulais répondre ?
Non, mais je suis tout à fait d'accord avec Jamy, c'est vrai. Mais moi, je trouve que poste par poste, quand même, il y avait quelqu'un plus. Qu'Emmans. Bon, voilà. Pour l'Argentine, attention, on le sait très bien que l'Argentine, c'était quand même pas la petite équipe. Hein? D'accord? La deuxième place devait se jouer entre l'Irlande et l'Argentine. Hélas, je crois que la deuxième place se jouera entre l'Irlande et la France. Je pense que la France, elle est bien partie, mais attention, l'Argentine, ils jouent tous en France, pratiquement. C'est nous qui leur avons appris à jouer au rugby, et on les a pas diminués, mais un petit peu. Et ils nous ont montré qu'on savait quand même leur apprendre le rugby. Et on savait jouer au rugby, nous aussi. Ben voilà, on a payé, ben voilà, c'est très bien. Manque de peau, en quart de finale, ben on aura les Noirs, et ben je pense que ce sera très dur.
Non, mais le problème, c'est qu'on on va pas refaire le match de, contre l'Argentine. On sait qu'il s'est passé quelque chose d'invraisemblable. Bon, on va pas revenir 100 fois sur le même sujet. Ça n'a rien à voir avec les Français ont balbutié leur rugby, certes, tout le monde l'a vu, mais pour quelle raison ça? Personne ne pourra l'expliquer et je crois que dans un siècle, on se posera toujours cette même éternelle question, qu'est-ce qui s'est passé ?
Voilà. Il y a une raison aussi. Je pense, la raison, enfin une des raisons, parce que ça aussi, le professionnalisme est là, peut-être, mais on est monté, on les a montés, on les voyait champions du monde avant d'avoir joué le match. Il faut, et voilà, alors bien sûr, les médias, vous n'y êtes pas pour rien, je suis désolé de vous dire que il faut quand même regarder les choses en face. On avait fait trois matchs, trois beaux matchs, d'accord, avant, de préparation, mais la Coupe du Monde, c'est toute une autre chose. Le tournoi en destination, qu'est-ce qui nous apporte à l'heure actuelle? Pas grand-chose. Alors, regardez, on fait les matchs de préparation contre des équipes qu'on a jouées contre le tournoi qu'on a déjà battu. Alors, c'est pas ça qu'on peut pas... Le monter en puissance comme ça, tu peux te faire peut-être pour le football, le tennis, mais le rugby n'est pas encore 100% professionnel. Et ben ils sont rentrés sur le terrain fébrile. Et voilà. Et on a perdu.
C'était le coup de gueule de Michel Chapouli. Hein.
Non, mais c'est. Il y en a beaucoup qui le pensent. Il y a pas que moi qui le pense ça. On a fait un peu trop de tapage autour. On était champion du monde avant d'avoir joué un match. Non, il faut pas quand même exagérer. Voilà. Ah bien sûr, on l'a donné à une chaîne privée. Et la chaîne privée, c'était normal qu'elle fasse le maximum pour faire connaître. Bien sûr, j'espère que ça nous retombera. Hein, il y aura des retombées. Super. J'espère pour le rugby surtout.
Oui, à propos de chaînes et de médiatisation, bon, tout le monde sait que tout est la faute des médias dans ce monde. J'aimerais quand même dire.
Je veux dire, allons, tu le sais très bien.
Je veux préciser une chose, c'est que en misant il y a plusieurs mois sur la Coupe du Monde de rugby, et ça c'est pas moi qui l'ai fait, c'est une enquête de François. J'ai pompé ça sur François, c'était assez bien fait. Oui, et donc je disais, en misant plusieurs mois sur la Coupe du Monde de rugby, TF1, détenteur des droits, ne s'attendait certainement pas à un tel retour sur investissement. Intermittent sur le terrain, les Bleus de Bernard Laporte font en effet ressortir auprès du grand public, comme le prouvent les audiences records réalisées par la chaîne lors de la diffusion de leurs différentes rencontres. La sauce n'a d'ailleurs pas tardé à prendre, puisque dès le match d'ouverture face à l'Argentine, les tricolores réunissaient près de 14 millions de fidèles devant leur petit écran, soit la meilleure audience de l'année, toutes chaînes confondues, agrémentée d'un score record de 55% de part de marché. Alors ça, c'est bon pour notre sport. Ça, c'est très bon. Alors, il ne faut pas dire non plus que les médias en font trop, parce que s'il n'y avait pas eu cette campagne d'avant le mondial, on n'en serait pas là aujourd'hui. Or, 55%, 14 millions plutôt de spectateurs pour un match de rugby, qui l'aurait cru il y a ne serait-ce que deux ans?
Oui, et c'était pareil pour la Namibie et pour l'Irlande. Hein. On est resté entre 12 et 14 millions de téléspectateurs, hein, Jean-Michel.
C'est exceptionnel pour notre sport. Il faut savoir que notre sport est un sport confidentiel, était un sport confidentiel et devient un sport de il faut voir un petit peu la ferveur, même du côté féminin, hein, et surtout du côté féminin, la ferveur des gens devant leur téléviseur. Ça, c'est assez exceptionnel, quoi. Il y a eu un petit reportage sur une station locale FR3 où on montrait cette ferveur dans les bistrots, chez soi, à domicile, etc. C'était assez exceptionnel. On connaissait ça pour le football, eh bien, on connaît de nouveau ça pour le rugby et c'est très bien.
Moi, j'aimerais connaître l'opinion de Jean-Luc, hein, sur ce que Jean-Michel a dit là depuis le début de cette émission. Jean-Luc,
déjà pour parler rugby à l'état pur, quoi. Je veux dire, on parle des erreurs un petit peu de choix de Bernard Laporte sur la composition de l'équipe pour l'Argentine. Moi, aujourd'hui, je souhaiterais, comme Jean-Michel a mis en avant nos ailiers Clair et Emmons, pourquoi pas les mettre au centre, parce que on manque de créateurs au centre aussi. Ça a été un petit peu notre péché. Depuis le début de la compétition, bon, le match contre la Namibie, il faut pas trop en parler, c'est un match pour s'amuser, je dirais, quelque part. Mais bon, encore une fois, on a vu que contre les Irlandais, au niveau création, on a eu juste droit à deux petits coups de pied qui nous ont fait un peu vibrer. Point très, quoi, je veux dire, derrière, il y avait rien. Bon, effectivement, O'Gara, O'Driscoll, on les a pas vus non plus. Il y a quand même une pauvreté au niveau du jeu d'arrière au jour d'aujourd'hui que compensent un petit peu les nations du Sud. Les nations du Sud, on les voit se passer le ballon, les Tongiens, les
Fidjiens, tout ça, on voit. Excusez-moi, mais il est normal que les nations émergentes soient plus performantes derrière que devant. Ça revient à dire que ce qu'on disait la semaine dernière dans ce même magazine, les nations émergentes n'ont pas cette culture d'avant que peuvent avoir les nations qui sont bien assises, c'est-à-dire l'hémisphère sud et les quatre grandes de l'hémisphère nord. Bon, ils n'ont pas cette culture, donc il est tout à fait normal que les gens soient plus performants, enfin les joueurs soient plus performants derrière. Puisqu'ils pêchent par leur jeu d'avant. Voilà quoi.
Je suis d'accord avec toi, Jean-Michel, mais effectivement, les grosses nations ont des packs puissants. On en a parlé la semaine dernière. Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais c'est au détriment du jeu arrière. La France avait jusqu'à présent a marqué des centaines d'essais avec ses arrières. Je vois pas aujourd'hui, on peut les compter, quoi. Je veux dire, on les compte sur les doigts d'une main. Bon, on a des éclairs de génie de quelques-uns de nos joueurs, et ça s'arrête un petit peu là. Au niveau créatif, excuse-moi, mais depuis quelques années, on ne crée plus grand-chose, quoi. Je veux dire.
C'est un peu normal, Jean-Luc. C'est un petit peu normal parce que le rugby a bougrement évolué aussi. Hein. Les cadrages débordements, t'en vois plus beaucoup aujourd'hui. On n'en voit plus beaucoup, parce que les joueurs ne savent pas faire des cadrages débordement, c'est parce que surtout le jeu a complètement changé. En l'espace de 10 ans, quelle évolution, quoi. Quelle évolution,
oui, dans le jeu,
c'est plus le rugby qu'on a connu il y a encore 10 ans.
Jean-Luc,
c'est normal,
oui, effectivement,
ça.
Mais justement, tu utilisais le terme jeu. Aujourd'hui, il n'y a plus de jeu. Le jeu, c'est pour moi, c'est le fait de s'amuser. On sent que les joueurs sont bloqués dans des carcans et ils n'expriment plus la notion de jeu à l'état même. Moi, je vois avec nos jeunes, excuse-moi, mais j'ai un peu l'esprit éducateur, et au niveau de nos jeunes, on leur demande de s'amuser avant tout, de se passer le ballon. Là, aujourd'hui, effectivement, c'est pro, tout ça, il y a des résultats à obtenir, je suis tout à fait d'accord. Mais tout ça, c'est bien sûr au détriment du jeu, à mon avis.
Oui, mais on pourra toujours le regretter. Le jeu joué par les Boniface, c'est fini. On le reverra plus. Ça, c'est terminé. C'est un autre rugby. Le rugby a évolué, et j'espère qu'il évoluera encore dans le bon sens, bien évidemment. Mais j'espère qu'il évoluera encore. Voilà. Bon, ceci dit, quand je regarde sur une chaîne là qui passe les anciens matchs, je sais plus comment elle s'appelle, et quand je regarde les matchs avec les Boniface, effectivement, je me régale. Je me régale comme tout le monde s'est régalé à cette époque-là. Mais il faut bien savoir que ça n'existera plus. Un cadrage débordement à la Darouille, ça, on le verra plus jamais. C'est fini, ça.
Je crois que c'est pareil pour tous les sports. Jean-Luc,
une dernière chose là-dessus. Ouais. Je crois que les nations du Sud, justement, on a parlé la semaine dernière de l'Australie et de l'Afrique du Sud, justement, aujourd'hui reviennent un petit peu à ce jeu d'évitement. On a pu le voir, notamment, c'était flagrant, Afrique du Sud, Angleterre, où les joueurs se sont passés le ballon. Et c'est ça qui, à mon avis, aussi régale un petit peu le public, fait se lever les gens. Et excuse-moi, quand on a vu France-Argentine, on s'est pas régalé du tout, quoi. On a vu que des gars se rentrer dans l'art, et point, quoi, voilà, c'est si je puis dire.
Bien, je crois qu'il faut pas regarder derrière. Hein. Il faut pas regarder derrière, il faut regarder devant. Aujourd'hui, c'est le jeu des lignes arrières, c'est la prise d'intervalle. En se passant le ballon, parce qu'on voit encore des, t'as raison de le dire, on voit encore des jolis mouvements des envolées de passes, etc. Après 3-4 pick and go, le ballon part à droite, part à gauche, on se passe le ballon, mais on ne fera plus de biscuit. Voilà, c'est le terme que je voulais employer. Les biscuits n'existeront plus, sauf cas exceptionnel, quoi. Par exemple, l'éclair de génie de Michalak, bon, il nous avait crédité de ça il y a quelques temps. Ce petit coup de pied de l'extérieur du pied vers l'aile droite à contre-courant de sa course, ça c'est de la créativité, je suis d'accord. C'est de la créativité, c'est spectaculaire, c'est répété, archi-répété, voilà quoi. Le geste du match et le geste qu'on verra, peut-être le seul et unique geste qu'on verra dans un match. Voilà.
Très bien, merci Jean-Michel en tout cas, hein, et puis rendez-vous la semaine prochaine dans nos studios.
Absolument.
Hein, allez, merci, on va absolument continuer cette conversation. Hein, et bonne fin de week-end.
Oui, salut à tous.
Voilà, alors on va continuer cette conversation, hein, parce que Jean-Michel, faut qu'il récupère son chaud de parachute quand même. Hein. Alors, Christian, sur ce qu'on vient d'entendre, là, un peu partout...
Voilà, sur ce qu'on vient d'entendre, j'aurai plusieurs observations à faire, mais on va essayer d'observer un peu plus à la loupe. Bon, il y a eu un net succès de l'équipe de France. Bon, nous sommes soulagés, mais surtout, il ne faut pas s'enflammer. Pourquoi ? Parce que si l'on observe à la loupe, on s'aperçoit qu'on a battu la Namibie, qui était une nation secondaire, mais réduite à 14. Merci. On a battu l'Irlande, réduite à 14.
Oui, mais on a gardé le plaisir de jouer quand même. Hein.
On a fait important. La différence à partir du moment où l'Irlande, on a marqué des coups de pied hein, sur les fautes irlandaises, mais on a commencé à marquer des points. Et le match s'est lâché complètement lorsque O'Connell a été sur la touche. Donc, méfiance. Nous avons développé notre jeu contre des équipes réduites à 14. De plus, l'Irlande, c'est une équipe vieillissante. Bon, il faut O'Connell, O'Gara, tout ça, ça marche. Hein. Bon. Alors, par rapport aux perspectives d'avenir, moi, il me semble que Michalak a été la partie faible, le maillon faible de l'équipe. Pourquoi ? Si on peut louer son coup de pied, on s'aperçoit que, et tout bon footballeur ou joueur au pied pourra le dire, qu'il n'a pas de pied gauche. Et s'il a joué à l'extérieur du pied, c'est un coup qui ne peut pas réussir dans toutes les fois, dans toutes les conditions. Donc, moi, je ferai cette deuxième observation, c'est que la France n'a pas d'ouvreur, pour l'instant, capable d'assurer au pied. Quand on voit l'importance du jeu au pied, c'est Traille, l'arbre qui cache la forêt. C'est Traille qui a dégagé son camp, qui a trouvé de belles touches, mais Michalak, à l'ouverture, a raté, il faut être objectif, tous ses coups de pied. Tous ces coups de pied. Mmh. Bon, si on a patiné le premier quart d'heure ou la première demi-heure, c'est parce que Michalak n'arrivait pas à trouver une touche ou à déplacer le jeu correctement. Mmh. Bon, donc là, il y a une faille, et je crois que c'est Galtier qui l'a souligné, hein, on ne gagnera pas la Coupe du Monde si on n'a pas un joueur au pied susceptible de rivaliser les autres. Donc, il faut bien faire attention, hein, les succès sont satisfaisants, mais encore une fois, lorsqu'on va tomber sur les Noirs, hein, on risque de voler en éclats. La satisfaction, par contre, c'est les avants. Hein. Bon, nous avons une ligne d'avant, et en particulier une première ligne très solide. Bon, Bonner qui s'est promené en touche, Et enfin, on arrive à trouver de la complémentarité en troisième ligne. Ce qui n'était peut-être pas le cas, hein, mais il me semble là qu'il y a eu une harmonie entre le demi de mêlée et la troisième ligne. Bon, il n'y a pas eu de couac pour les sorties de
mêlée, etc. Et Lissalde pèse sur le jeu quand même, hein.
Voilà, hein, et Lissalde a bien distribué le jeu. Bon, bon buteur de près. Voilà. Et ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Nous avons le prochain match qui sera difficile, hein, puisque nous allons être confrontés à une équipe qui va défendre, qui va mettre le ballon au sol, qui va essayer de ralentir les sorties, qui est solide devant. Bon, avec sans doute un jeu au pied. Alors, 30 secondes. Pour revenir à l'échec contre l'Argentine, c'est très simple.
C'est la faute des médias.
Contre l'Argentine, pas du tout.
Je blague Michel.
Pas du tout. Mais
je c'est, blague Michel.
Mais, Philippe, c'était évident. C'était évident. Écoutez bien, il faut refaire l'histoire. Nous avons gagné le tournoi des Six Nations. Comment ? En se fondant sur la défense. On n'a fait qu'exploiter les balles de récupération. C'est par la défense qu'on a gagné le tournoi des Six Nations. Qu'est-ce que nous ont proposé l'Argentine ? Les Argentins, ils nous ont tenus devant. Un match se gagne devant. On n'a pas pu le gagner devant, ils nous ont donné des coups de pied à suivre. Jouer. Mais on n'a pas joué pendant le tournoi. On ne sait pas prendre les intervalles et jouer dans la défense. Parce que le rugby aujourd'hui, c'est pas se faire des passes. C'est pas faire des cadrages et des débordements. C'est d'abord jouer dans la défense. Être capable de passer les bras, fixer dans les intervalles. Passer les bras, donc il faut être solide, hein, pour pouvoir libérer des... Voilà.
Là-dessus, je rebondis dessus.
C'était ce que tu disais tout à l'heure.
Nous, en tant qu'éducateurs, aujourd'hui, le message de la fédération, des comités, j'étais encore à une réunion jeudi soir là pour les moins de 17 ans, on dit, jouez dans la défense. On nous le dit. Dans le stade, tout le monde s'est fait la même réflexion. Et on voit nos internationaux qui ont été préparés pendant des semaines, des mois, et eux ne l'appliquent pas.
Mais non.
C'est le message qui passe par la fédération. C'est nos entraîneurs nationaux qui nous le disent. Et par contre, ils ont complètement fait déjouer les Français. Mm-hmm. C'est quand même extraordinaire, quoi. Je veux dire, nous, les gens passionnés par ce jeu, je parle pas des VIP qui sont au stade, ça n'a rien à voir. Mais je veux dire, tous les techniciens, tous les joueurs, tous ceux qui ont mis un short et des crampons pour pratiquer ce jeu, on s'est tous fait la même réflexion.
Mmh. Ouais, c'est donc pratiquement maintenant dans tous les sports que les défenses sont importantes et prennent le pas souvent. Chez Attac Didier, on a été tous très bavards.
Non, mais moi je vais être beaucoup plus bref. Je voudrais dire que moi, j'ai entendu dire que c'était le renouveau de l'équipe de France à la suite du match contre l'Irlande. Bon, ce qu'a dit mon prédécesseur est tout à fait exact. L'Irlande est une équipe très vieillissante qui, dans quelques années, si elle se renouvelle pas, eh bien touchera le fond. Moi, je ne me gargarise pas, parce que il n'y a pas de renouveau de l'équipe de France. L'Irlande ne m'a pas fait oublier l'Argentine. Mmh. Et c'est pas une histoire d'homme, je pense pas. C'est pas une histoire de Jomazo ou de Laporte. Les 30 qui sont sur la feuille de match, sur les feuilles de match, sont sûrement les 30 meilleurs qu'il y a en France. Ça, il n'y a aucun problème. À mon sens, c'est une histoire de fond de jeu. Mmh. Et si on joue comme ça, contre les Blacks, j'espère qu'on jouera contre les Blacks, si on joue comme ça contre les Blacks, le score va être le même que contre l'Irlande, mais à l'envers.
D'accord.
Parce que eux ont une chose que nous n'avons pas. Ils ont des individualités comme nous, mais eux, ils ont un fond de jeu. Mmh. Et ça, nous ne l'avons pas.
Ouais. Vos réactions, Michel ?
Ce qui se passe, à l'heure actuelle, on ne joue pas à la française. Voilà. Et on a toujours gagné.
Est-ce que dans le rugby, jouer... on peut jouer?
Non,
à la française.
Mais attention. Si, jouer devant, bien sûr, il faut récupérer le ballon. Fixer l'adversaire. Ça, maintenant, c'est le rugby. On fixe l'adversaire. Mais bon, ça, on ne sait même plus se faire une passe. Tu vas pas me dire, Jean-Michel, il serait au micro. Il pourrait... Bien sûr, nous sommes plus autant des Boniface, des Darouille et des Canberra Béraud, des Albaladejo. Mais quand même, jouons à la française et vous verrez comment avons-nous battu les grandes équipes des nations du Sud en jouant à la française. Ne déjouons pas. On déjoue, on veut faire comme eux. Eh bien, nous sommes pas faits comme eux. Voilà, les Français, on nous l'a toujours dit. Hein. Les rugbymen français sont les Brésiliens du ballon ovale. Bon sang, bonsoir. Et on fixe l'adversaire devant, nous avons un 8 extraordinaire, fixons-les devant et on ouvre pas des coups de godasse. Putain, c'est incroyable de donner toujours des coups de godasse. Ouais. Non, jouons à la française et on gagnera et on marquera beaucoup d'essais. C'est ce que le public souhaite parce que il faut pas oublier qu'il faut payer pour aller voir les matchs maintenant. Je sais pas combien, si vous savez combien se vend une place pour la finale, je vous le dirai après si vous voulez, hein. Bon, ça se chiffre par plusieurs centaines d'euros. Place pour la finale. Alors, celui qui va payer ça, bien sûr, il y a des VIP, comme tu disais, Jean-Luc. Bien sûr. Mais il y a des mordus, quand même, comme nous. Eh bien, je suis désolé, je vais pas mettre 500 euros pour aller voir la finale, vous comprenez? Et alors qu'il y a, ah, ben oui. Mais, nous payons, c'est un spectacle qu'on veut voir. D'accord? Alors, jouons à la française et on ramènera. On n'aura même pas besoin de tergiverser de droite et de gauche. Le public arrivera là.
Et on fera une belle fête.
Voilà. Et on se fera la fête.
Voilà.
Christian ? Oui, je suis entièrement d'accord avec cette analyse. Je crois qu'il est très difficile de jouer contre nature. Je vous prends un exemple, et c'est au tennis, où on a modifié le jeu de certains joueurs pour les faire jouer plus liftés, etc. Et ils ont complètement baissé au classement. Mm-hmm. Dans les équipes de France, de foot, de volley ou autre, pareil. On a essayé d'imposer des schémas tactiques qui cadenassaient l'individu. Nous, on a besoin de libérer notre créativité et notre expression rugbystique. Bon, alors, le problème, c'est qu'il faut, il ne faut pas faire... que l'un ou l'autre, mais il faut essayer de développer les capacités physiques pour s'adapter au jeu d'aujourd'hui, mais en même temps mettre des schémas tactiques qui permettent à notre inventivité et notre créativité, pouvoir de création, de s'exprimer. Quand on voit les Anglais qui vendangent un 4 contre 1, oui. On s'aperçoit que il vaut mieux qu'ils jouent les auto-tamponneuses, quitte à se faire du mal. Mais nous avons cette capacité à jouer avec la balle et en ayant la possibilité de faire des décalages, envoyer la balle à l'aile ou trouver des situations qui permettent de faire progresser le jeu.
Effectivement, c'est tout à fait flagrant. Il y a quelques années, le match contre la Namibie, il aurait dû se solder par plus de 100 points. Il y a eu je ne sais combien de ballons tombés.
Notamment
Par les arrières, justement, les trois quarts qui n'ont pas l'habitude de manier le ballon à haut niveau. Ils n'ont plus l'habitude. Moi, je me souviens des matchs qui ne sont pas si lointains où tu retrouvais des Bonneval, des Charvet, des Codorniou et tout ça. Des Sella. C'est des gens qui faisaient vivre le ballon. On leur laissait un tant soit peu d'initiative, même si déjà à ce moment-là, moi j'adore le jeu de Philippe Sella, même si à ce moment-là on commençait à rentrer dans le professionnalisme, où on commençait à voir des centres de plus de 100 kilos qui arrivaient sur le marché, effectivement, il en faut peut-être, cette évolution je la conçois, mais c'est pas le rugby que l'on pratique sur tous les terrains de France, c'est clair.
Didier ?
Oui, moi je voudrais dire simplement c'est qu'on perd notre âme en voulant jouer comme les autres. Mm-hmm. Moi, j'ai en mémoire ce fameux 14 juillet, je crois que c'était 74,
ouais. 79
à Auckland où on est allé piler les Blacks et en jouant à la française. Et le rugby panache. Mm-hmm. Le rugby champagne. Mm-hmm. Et ils se sont toujours pas remis. Alors, moi, je suis pas loin de penser que si aujourd'hui on jouait comme ça, mais c'est difficile parce que France, il y a 60 millions de sélectionneurs. Donc, c'est difficile de dire ça. Mais je pense que les Blacks seraient très surpris si on leur refaisait le coup d'Auckland de 79.
Didier, pour appuyer cette remarque-là, en 99, lors de la Coupe du Monde, c'était la même chose.
Ah oui, absolument.
On leur a proposé, on avait perdu le match à la mi-temps. Bon, après, les joueurs se sont libérés. Ils ont joué. Et là, on a vu au moins des courses de trois quarts, des ailiers qui débordent. Enfin, c'est ça le rugby, quoi. Je veux dire, avant tout, ça reste, il faut que ça reste un jeu.
Alors, il faut quand même pas être trop pessimiste, parce que moi, j'ai en mémoire aussi 1998, la Coupe du Monde de football, où il n'y avait pas grand monde qui donnait la France gagnante en finale, malgré le fait que ça se jouait en France.
Sauf Aimé Jacquet dans nos studios.
Sauf Aimé Jacquet voilà. dans les studios. Ouais. Et il y en a qui ont mangé leur chapeau ce jour-là, d'ailleurs.
Ouais, bon. ouais.
Mais moi, je ne perds pas espoir, mais il va falloir jouer autrement.
Alors, moi, je vais être un peu l'avocat du diable. C'est sûr qu'il y a un jeu à la française et qu'on pourrait peut-être jouer d'une autre façon, tout en étant efficace. Mais si l'on veut battre les Blacks, on a fait le constat qu'on n'est pas habitué à jouer derrière, à progresser en se faisant des passes à la main. Eh bien, on a deux armes redoutables. Il suffit de mettre Trail au centre et mettre Boxis à l'ouverture.
Voilà.
Et de grands coups de pied de 60-70 mètres, peut-être qu'on limitera les dégâts et peut-être qu'avec un jeu qui ne sera pas la française, on pourra perturber ces fameux diables noirs qui veulent porter notre deuil.
Mais c'est vrai, je pense que tu as un petit peu raison dans la mesure où, comment dirais-je, Boxis, on ne le voit pas, où il vient en fin de match, après le match de Michalak de vendredi. Moi, je vois pas pourquoi on ne ferait pas jouer un match complet, quoi. Je veux dire, et je pense que c'est peut-être pas le match contre la Géorgie qu'il faut, au cours duquel il faut l'aligner.
C'est pas le mieux, non.
Je crois qu'il faut le mettre d'entrée contre les Blacks, pourquoi pas. Et au moins, lui, il enquille. Et puis les pénalités de 50 mètres, il les passera aussi, parce que Michalak aussi, il a été un petit peu, il a pêché sur cette mission-là également. Bon, Michalak, c'est vrai qu'on loue son, comment dirais-je, sa créativité. Depuis la Coupe du Monde 2003, c'était OK. Mais cette année, il ne nous apporte rien.
Michel ?
Oui, je voulais dire. Il faut pas oublier quand même que Boxis, il a été élu meilleur espoir mondial pour la Coupe du Monde jeune, il y a deux ans, je crois. Hein.
Oui.
Bon, ça, c'est quand même important. Je voulais ajouter un petit peu à ce que tu disais, Jean-Luc, au sujet de Michalak. Michalak, il veut être à la cave et au grenier en même temps. Je m'explique. Ce gars-là, c'est vrai, bon, c'est professionnel, on gagne de l'argent. On veut faire du rugby. Et on veut faire le mannequin, on veut faire gagner de l'argent à tout prix. Attention, ne nous dispersons pas. Et là, c'est tout à fait l'image, ce qu'on veut arriver à faire de l'équipe de France. Michalak, il est en train de le faire. Et il part en Afrique du Sud. Ah ben, il va falloir quand même qu'il s'entraîne un petit peu mieux et qu'il change un petit peu. Ah, c'était un espoir extraordinaire. Mais je pense qu'il a baissé.
Il apporte son jambon.
Voilà, ben oui.
Très bien. Allez, après ces débats très passionnés, on marque un petit break musical et puis ensuite, ça sera déjà presque la fin de notre émission. Hein, messieurs, on y va. On a des débats très passionnés, on est à l'antenne. Je voulais simplement vous dire qu'à l'occasion des 21e foulées olympiques qui se déroulent ce week-end du côté de Buc, on devait avoir Gabriel Tissé, et puis apparemment il est aussi réquisitionné par cette épreuve, donc il ne sera pas disponible pour intervenir. Il y aura une belle exposition sur le rugby à travers 23 panneaux illustrés d'images issues des collections nationales du Musée National du Sport. Et puis au cours de ce week-end de sport sur Buc, il y aura du vélo de route avec un gentleman olympique, donc à laquelle donc participe Philippe Hermenot. Il y aura de la randonnée, il y aura de la course à pied, il y aura de l'handisport, de la marche compétitive, de la balade dans la ville, et puis diverses activités, y compris du rugby. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu quand même sur les autres matchs, messieurs, parce que est-ce qu'il y a d'autres équipes qui vous ont impressionné? Hier, l'Afrique du Sud a notamment peiné pour battre le Tonga.
Je crois qu'on peut réagir effectivement là-dessus, parce que les grandes équipes se targuent d'avoir 30 joueurs au même niveau, et là, on voit que de temps en temps, c'est pas tout à fait le cas, quoi, parce que les Tonga ont failli les faire chuter. Il a fallu que l'entraîneur fasse rentrer en début de deuxième mi-temps l'artillerie lourde, comme on dit, pour remettre un petit peu les choses à leur place, quoi.
Mm-hmm.
Bon, au sujet d'Angleterre-Samoa, Wilkinson, on peut dire que les Anglais peuvent le remercier de l'avoir, parce que non seulement en 2003 il leur fait gagner la Coupe du Monde, mais là, il a remis, comment dirais-je, le chariot dans le chariot dans le bon sens, quoi, parce que depuis le début, bah, les Anglais nous avaient pas montré grand-chose. Et puis, bah, ma foi, ces petites nations émergentes, c'est toujours un plaisir de les voir jouer.
Alors justement, on va revenir donc sur les résultats de cette semaine. Hein. Donc les Tonga avaient battu le Samoa, c'était dimanche dernier, 19 à 15. Ensuite, eh bien, l'Afrique du Sud, on l'a dit, eu beaucoup de mal à battre le Tonga, 30 à 25. Et l'Angleterre a battu le Samoa, 44 à 22. C'est-à-dire qu'il va y avoir un Angleterre-Tonga qui va être déterminant. Hein.
Ah, celui-là, il va pas falloir le manquer.
Mais
attention, il faut, il faut aussi... la semaine dernière, on a parlé justement de ce Samoa-Tonga où on se disait
c'est
il faut pas le louper. Et ouais, puis je crois qu'il a été cadenassé.
C'était Jean-Michel qui voulait pas le louper.
Voilà. Non, mais moi aussi, également. Mais finalement, je suis un peu déçu parce que eh bien, c'est deux nations émergentes qui ont joué comme des grosses nations, quoi, pour pas perdre. Mm-hmm. Ouais, c'est tout simple.
Alors, dans le groupe B, donc, les Fidji ont battu le Canada 29 à 16, hein, et puis le Pays de Galles a écrasé le Japon 72 à 3. Là, ce sont des résultats logiques.
Ce qu'il faudrait dire aussi, c'est que la fédération internationale souhaiterait passer à 16 clubs, 16 nations. Il faut surtout pas, pas, parce que écoutez, toutes ces petites nations se sont qualifiées. Il faut pas l'oublier. Elles se sont qualifiées. Le Portugal, la Namibie, la Géorgie, l'autre équipe, c'est, je me souviens plus. L'autre petite équipe, eh bien écoutez, le Japon, eh bien ces équipes-là, elles se sont qualifiées, eh bien pourquoi pas leur donner une chance, surtout pas descendre à 16, il faut rester à 20.
Mm-hmm. Moi, je voudrais dire que ça reflète un petit peu l'esprit olympique, ben, oui. Il y a des petites Absolument. Équipes qui ont droit à apparaître.
Et alors
mm-hmm. et ça, c'est porteur.
Mmh. On dit petites équipes, non, petites nations, mais par le rugby, eh bien, on voit bien que ben, la Roumanie a baissé et elle remonte. Eh bien, c'est très bien, parce que ça aussi, ça fait vivre, ça fait connaître, c'est très bien.
Oui, ben justement, dans le groupe C, la Roumanie a été écrasée par l'Écosse 42 à 0, alors que l'Italie a battu le Portugal 31 à 5 au Parc des Princes, mais ça n'a pas été apparemment si facile que ça. Hein.
Non.
Ouais. Oui, moi je veux dire ceci, hein, il est faux de dire petites équipes.
Voilà.
La plupart des joueurs qui sont dans ces dites petites équipes évoluent dans nos championnats anglais, français, etc. Bon, donc leur problème, c'est un problème de structure et d'entraînement. Bon, ils ne sont pas confrontés sans arrêt à des nations plus évoluées, plus fortes. Hein. Donc, si on veut tendre vers l'universalisation du rugby, hein, son développement, eh bien, il faudra structurer davantage les compétitions et inclure ces dites petites nations dans des championnats où ils pourront s'aguerrir davantage.
Mais c'est difficile, parce que prenons la Namibie. La Namibie, il y a 4 ou 5 joueurs qui jouent en Namibie, tout le monde joue à l'extérieur. En Argentine, c'était également le problème, c'est que personne ne joue en Argentine, ils jouent tous en France, en Angleterre, où sais-je. Et donc, c'est un problème de structure, seulement les fédérations n'ont pas la structure nécessaire, je parle de la fédération nationale de tel et tel pays, n'a pas la structure nécessaire, et peut-être l'argent ne suit pas, parce que les sponsors ne suivent pas. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de petites équipes, mais il y a des petites structures.
Mais pour revenir là-dessus, effectivement, en parlant de l'Argentine, effectivement, on a entendu parler courant de l'année que éventuellement l'Argentine viendrait renflouer un petit peu faire la 7e équipe dans le tournoi des 6 nations, quoi. Ma foi, pourquoi pas, parce que c'est aujourd'hui le tournoi des 6 nations est bloqué sur 7 ou 8 semaines. Bon, bah les Argentins, ils ont qu'à faire un camp en Europe et puis voilà, quoi, parce que venir 25 joueurs d'Argentine qui vont pour s'entraîner en Argentine avec les 5 qui sont sur place, c'est un peu ridicule, autant faire l'inverse et puis mettre de l'argent pour leur permettre de se structurer et d'évoluer. Mais faut peut-être pas en faire trop avec les Argentins, ils seraient capables encore de nous battre.
Oui, mais enfin, ce qui a un coût aussi, c'est de transférer 6 équipes européennes en Argentine pour jouer.
Ouais, ouais. L'Argentine qui a battu la Namibie 63 à 3, hein. Il n'y a pas eu
photo. Oui, mais il n'y a pas photo, oui.
Ouais, ouais.
Ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas non plus. Il y a bien l'étrination. L'étrination, c'est l'hémisphère sud, et eux, ils progressent. C'est marrant parce que nous, on est six nations à l'hémisphère nord. On stagne. On est derrière eux.
C'est toujours les mêmes équipes
normal.
Qui reviennent, quoi.
Oui, c'est toujours les mêmes équipes. Alors eux, bien sûr, leur championnat n'était pas le même.
C'est toujours le vieux problème de l'équipe, de l'Europe vieillissante face au nouveau monde.
Oui, petit si tu veux.
Alors, messieurs, le programme du jour, Australie-Fidji, donc à Montpellier à partir de 14h30, et puis Écosse-Nouvelle-Zélande à 17h à Murrayfield. Vous en pensez quoi?
Et que je suis impatient de voir Écosse-Nouvelle-Zélande.
Moi je dirais une chose, je ne suis pas impatient de voir Écosse-Nouvelle-Zélande. Ouais. Pourquoi? Parce que l'Écosse a mis son équipe B.
Ah bon?
Si vous regardez étonnant. Bien, l'Écosse a mis son équipe B, donc
c'est champion.
Oui, mais si je peux vous livrer la composition,
ils
de
ont pour mission de battre les Blacks.
Il n'y a pas un joueur de l'équipe A.
Et pourquoi? On peut avoir des raisons, parce que bon,
c'est d'une logique extrême. C'est pour s'économiser,
c'est un risque quand même,
pour économiser les joueurs pour jouer le match décisif contre l'Italie.
Il faut pas oublier que pour eux, que pour l'Écosse, il y a un quart de finale à assurer, et le but du jeu, c'est de battre absolument les Italiens la semaine prochaine pour s'assurer un quart.
On fait l'impasse sur une équipe, sur un match.
Ils ont les moyens de le faire vis-à-vis de ce...
À mon avis, c'est prendre des risques, parce qu'ils ne sont pas sûrs de battre les Italiens, les Écossais.
Ils ne sont peut-être pas sûrs de battre les Italiens.
Mais ils ne sont pas sûrs de battre du tout les Blacks.
Mais ils ont été déjà battus par les Italiens, si je ne me souviens bien, dans le tournoi à destination. Mais ce qu'il y a, mais ça dénature un petit peu, ça aussi. On fait jouer l'équipe B. Ce qui veut dire aussi, c'est que nous, si on a 30 joueurs à peu près d'égale valeur, peut-être eux ne les ont pas non pas.
Oui.
Hein, c'est ça.
Enfin, les Blacks, il faut se rassurer.
Ils vont mettre l'équipe.
Dernier petit mot, c'est ce qui peut faire gagner justement le fait d'avoir un banc. Parce que on dit qu'un mondial se gagne à 30.
Oui, c'est quelque chose de vraiment remarquable. La Nouvelle-Zélande, ils ont 30 joueurs d'égale valeur. Mm-hmm. On peut intercharger comme on veut.
Les avant devant.
Alors, le banc a une importance capitale de nos jours. Pourquoi? Parce qu'on peut remplacer 7 joueurs. 7 joueurs, c'est presque la moitié d'une équipe. Si vous vous souvenez, le Stade français a gagné la finale. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un bon coaching, mais parce que le banc était meilleur que les joueurs qui étaient sur le terrain. Le Stade français a commencé avec l'équipe B, et ils ont fini avec l'équipe A.
Très bien, messieurs, merci. Vous avez le droit de revenir la semaine prochaine.
Mais nous reviendrons
avec plaisir. Eh bien, très bien, ça sera avec Tribune Rugby, puis on aura Jean-Michel qui aura récupéré son studio de parachute, qui sera dans nos studios. Voilà pour cette matinée sportive bien chargée et bien fournie. Il y a plein de choses, vous n'oubliez pas. Donc la fin du tournoi de tennis de la Clairière, il y a la fin de la semaine équestre du Perret, et il y a les foulées olympiques, même si on n'a pas pu avoir ce matin tous nos intervenants. Bonne semaine, bon dimanche. On vous laisse avec nos amis de Radio Village.
RVE, il est 11h.